Radio Chablais, 23h. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Radio Chablais, programme de nuit.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Les délits de faciès sont encore très courants et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, plus précisément en Californie, dans un quartier où un monsieur s'est fait entourer par la police d'un coup. Il promenait simplement son bébé. Son problème à lui, c'est qu'il est artiste, donc il a un petit chignon sur la tête, une un peu petite barbe de quelques jours quand même, voire quelques semaines, et qu'effectivement, il ressemble pas du tout à un banquier, du coup, quand il promenait son bébé. Sa voisine a été persuadée que c'était un SDF qui enlevait le dit bébé. Donc la police est intervenue d'un coup, alors en plus à l'américaine, avec de très nombreuses patrouilles pour entourer et pointer le monsieur avec un pistolet, qui a dû se défendre, expliquer que non, il était juste artiste. Alors il est vrai, habillé un peu débraillé peut-être, mais pas du tout SDF, et simplement fatigué de s'occuper du nouveau-né. Ben oui, on a toutes et tous connu ça. Il est pas rancunier quand même, hein, puisqu'il n'en a pas voulu à sa voisine, et il a au contraire remercié d'avoir été attentive à ce qu'il se passait dans son quartier. Il part en cunier quand même. Hein.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Dimanche dernier, à l'occasion de sa traditionnelle fête des fraises, la commune de Plougastel d'Aoulas dans le Finistère a explosé un record assez impressionnant, le record du monde de la plus grande tarte aux fraises. Déjà, ça donne faim. Mais un record franchement assez impressionnant, puisque pour cette gourmandise, il y avait 49,49 mètres carrés la taille du gâteau, 750 kilos de fraises et 300 kilos de crème fraîche. Hop là, on réveille légèrement son insuline et le diabète vient de repartir. Tout ça a été donc nécessaire pour battre ce record, mais un record qui ne sera pas inscrit au Guinness Book. Vous savez, le fameux Guinness Book. Pourquoi? Parce que le maire de la commune de Plougastel d'Aoulas a dit c'est pas possible, il nous demande 20 000 euros pour faire homologuer ce record dans le Guinness Book. Et effectivement, je peux comprendre que ça pique un petit peu, c'est pas une chose qu'on sait nécessairement. Et 20 000 euros, il disait lui, bah, pour ma commune de Plougastel, c'est le montant que j'ai besoin pour faire fonctionner certaines de mes écoles à certains moments de l'année et pouvoir créer des animations et développer un petit peu des choses. Donc il a dit, bah, le Guinness Book, c'est pour nous terminer. Et il s'est associé à la brasserie Corée. Pourquoi? Parce que ben, Guinness, c'est de la bière, c'est une brasserie à la base. C'est historique, c'était une manière pour Guinness de se faire connaître à l'époque. Et Corée, c'est une bière bretonne à l'opposé. Et le patron de la Corée a dit, ben, moi je te demande juste de me payer l'huissier et on va créer notre propre bouquin juste pour contrer un petit peu la chose. À mon avis, ils n'ont pas un énorme avenir dans la création de leur Corée Book des records, parce que Guinness a quand même un sacré pouvoir, on va dire, financier et de communication s'il faut, mais l'idée est intéressante. Peut-être aussi elle signifie une première rébellion contre le Guinness Book des records. Je dis une première, on avait déjà eu quelques-unes, mais en tout cas on reconnaîtra toujours aux Bretons cet énorme besoin et ces énormes velléités d'indépendance. Est-ce que ça rappellerait pas un petit village gaulois qui se situe justement dans le Finistère, à la base dans le bouquin?
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud.
Sur le grill. Oh, aïe.
Le Giron des musiques du District d'Aigle, c'est ce week-end du côté de Lézin, avec un très très riche programme. On va vous donner encore plus envie d'y aller. On va en parler ce matin avec Christelle Giobellina, Afonso Giobellina. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la fanfare de Lézin.
Oui.
Alors déjà précisé, parce que moi je dis tout le temps fanfare de Lézin, mais il y a un petit nom quand même derrière.
C'est quand même la fanfare La Rose des Alpes.
La Rose des Alpes, ça fait joli et ça fait poétique. C'est quoi un petit peu l'histoire d'ailleurs de cette fanfare? Alors on va parler dans tous les détails techniques peut-être, mais elle existe depuis quand?
Alors elle existe depuis 129 ans aujourd'hui.
129 ans?
Ouais.
Aujourd'hui?
Aujourd'hui.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Oh, on va mettre une petite bougie sur les croissants que vous avez amenés. 120 ans, c'est énorme quand même pour une fanfare.
C'est énorme, ouais.
C'est une des plus vieilles de la région, vous pensez, ou bien?
Non, je pense pas.
Non, pas tout à fait.
Je ne sais pas les autres dates, mais je ne pense pas.
Je pense
qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas une des plus jeunes.
Combien ça, j'imagine aussi. C'est à peu près, on n'est pas obligé de chiffres précis, mais combien de membres?
Une trentaine de membres.
Ouais. Une école de musique aussi.
Une école de musique propre à nous-mêmes.
Okay.
Donc, on a notre directeur qui forme les élèves.
Donc ça veut dire que si on a envie de faire apprendre la musique assez plus jeune, parce que bon, pour moi c'est un peu trop tard, mais on peut faire partie
de... C'est jamais trop tard. Jamais.
Moi je sais faire du triangle, et encore c'est pas tout le temps en rythme.
Moi c'est pas si simple le triangle.
Bon alors, le Giron donc, c'est ce week-end. Ça, s'il y a bien un grand Raoult, c'est le Giron. C'est le moment de l'année. C'est pas facile à organiser, je sais de quoi je parle. C'est un tournus qui se fait dans les différents ensembles musicaux de la région. Vous, est-ce que vous savez la combientième fois que vous l'organisez, vous le savez?
Troisième fois.
Ah, déjà quand même. Hein.
Mais la dernière fois, c'était en 2007.
En 2007.
Si je ne me trompe pas d'année.
On parle avec donc ce tournus, un riche programme, et on l'a dit, un concert de Eugdi Driton le samedi à 20h. Toutes les infos, alors on trouve entre autres sur alvaudoise.ch, aussi sur le site.
Sur le site de la fanfare aussi.
Qui est
larosedesalpesimmonsite.com.
Bon alors, ce Giron, c'est un peu comment que ça se passe? C'est quoi le programme?
Alors le programme, on va commencer le samedi avec au Collège du Suchet pour le concours des solistes qui va démarrer à 10h.
Okay.
Au centre sportif à 17h, tous les stands ouvriront au centre sportif du Créteil-Jacquet à 17h, suivi du concert des fameux Eugdi Driton et d'un concert des Back to 80s pour bien finir la soirée.
Ouais, pour revivre les années 80 en musique, gros programme. Faut quand même se souvenir que la journée, alors vous l'avez dit, il y a le concours des solistes, et que le dimanche ensuite, c'est le passage des sociétés. Alors devant le jury, ça c'est pas nécessairement le moment le plus passionnant pour le public. Par contre, ensuite, il y a 11h30 le cortège des sociétés. Il faut vraiment le rappeler, c'est des super super moments. Il y a des grosses ambiances dans Giron. Il y a les fanfares qui jouent, qui prennent différents morceaux d'ensemble, et il y a toujours une très 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 belle ambiance.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il faut venir découvrir ça.
Le cortège aussi, le village sera décoré, les vitrines seront décorées aussi, donc ce sera super joli.
C'est une vraie célébration quand même.
Ouais, c'est un moment à nous, mais il faut venir le découvrir.
On fait une petite pause musicale, mais on rappelle qu'il reste des billets pour Eugdi Driton, alvaudoise.ch ou rosesalpesimmonsite.com également. Il reste quelques places pour le spectacle, mais là, il faut aller vite aussi, hein, parce que Eugdi Driton, on le sait aussi, on l'avait vu l'année passée avec, ça s'est rempli, mais super vite sur la fin, quoi.
Oui,
c'est ce qui risque de se passer.
Ça se remplit assez vite, ouais.
Ah, Mélanie Eugdi. C'est chaud, c'est
chaud. Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Sur le grill.
Christelle Afonso Giovellina, toujours avec nous ce matin, présidente de la Rose des Alpes de Lézin pour le 65e Giron des musiques du district d'Aigle. Et surtout, aujourd'hui, hein, tout à coup, on se le dit ça comme ça par hasard, mais c'est les 129 ans aujourd'hui de la fanfare, la Rose des Alpes. Très riche programme, on vous l'a dit, hein, avec des concours de solistes, avec différents défilés, tout ce week-end du côté de Lézin, le concert de Eugdi Driton ainsi qu'un concert de Back to the 80s pour une soirée revival années 80. Et puis se souvenir aussi qu'il y a encore quelques places de bénévoles, histoire de vivre l'événement de l'intérieur. C'est bien ça, Christelle?
C'est ça. Il y aura toujours de la place, de toute façon. Même à la dernière minute, on aura du travail.
Il y aura toujours du job.
Mais c'est aussi pour venir vivre cet événement. Ça peut être une très belle expérience.
De l'intérieur, effectivement, c'est toujours intéressant. Samedi donc, et dimanche, avec aussi plein de stands. Et vraiment, au niveau restauration, au niveau ambiance, au niveau bar, tout ce qu'il faut aussi pour s'éclater un petit peu, quoi.
Ah,
c'est un peu le but, quoi.
Ouais, c'est ça.
Venir passer un très très bon moment ce samedi et ce dimanche à Lézin, que ce soit entre le centre sportif de Créteil-Jacquet ou le collège du Suchet, les concours des solistes, le cortège des sociétés depuis la place du marché avec la destination Lézin, le village qui sera décoré. Tout ce qu'il faut, franchement, un joli week-end bien traditionnel. La météo s'annonce sympa, donc on va s'éclater, quoi.
Je parle pas de météo, je préfère pas.
Faut croiser les doigts et toucher du bois. 65e Giron des musiques du district d'Aigle et les 129 ans de la Rose des Alpes, fanfare, Rose des Alpes, immonsite.com. Tout ce qu'il faut, on trouve aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs, tout ce qu'il faut, tous les liens.
Ouais, Instagram, Facebook, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à la billetterie, aux informations nécessaires.
La Rose des Alpes. Bon anniversaire.
Merci.
Et puis bon giro.
Merci beaucoup.
Ciao, bon week-end.
Bon week-end.
C'est chaud. Sur le grill.
Oh, Radio Chablais, programme de nuit.
Le top du top sur Radio Chablais.
Pierre qui me rejoint au studio ce matin et comme tous les mercredis à la même heure pour nous parler du top du top. Bonjour Pierre.
Bonjour, mais tout d'abord un petit clin d'œil dans les journaux, puisque ce 11 juin 1981, on découvre que le socialiste Walter Buser, jusqu'ici vice-chancelier, est élu chancelier de la Confédération par l'Assemblée nationale. Au terme de 4 tours de scrutin, il recueille 124 voix contre 104 qui sont allées au candidat des démocrates chrétiens Joseph Voyan. Décrit comme puissant et modeste, efficace et discret, Walter Buser succédera le 1er juillet suivant à Karl Huber et restera chancelier jusqu'au 30 juin 91, donc une décennie à ce poste.
Belle performance.
Voilà, exactement. Le titre musical qui cartonne au sommet du hit parade ce 11 juin 81 est interprété par Herbert Léonard pour le plaisir.
Ah oui, forcément.
Oui. Né à Strasbourg, l'artiste quitte l'école à 16 ans pour apprendre à jouer de la guitare. Il monte le groupe de rock Les Jets avec ses amis, en référence à West Side Story. Il a 22 ans lorsque son premier disque sort. Herbert Léonard connaît très peu de succès durant les années 70. Il retombe même dans l'anonymat et devient journaliste spécialisé dans Aviation Magazine. Mais en 1980, Vlin Bugy découvre un jeune compositeur de talent, Julien Lepers, que les téléspectateurs suivront ensuite durant près de 30 ans dans Question pour un champion sur France 3. Elle contacte également Herbert Léonard, persuadé d'une alchimie entre eux. S'ajoute Arlette Tabert, responsable de la programmation musicale sur Europe 1 et également parolière. Et le titre de la chanson vient justement d'une émission de France Inter intitulée, enfin justement, c'était Europe 1 avec Arlette Tabert, là c'est un titre d'une chanson qui vient d'une émission de France Inter intitulée justement Pour le plaisir. Mais comme aucune maison de disques ne croit en ce morceau, Vlin Bugy décide de le produire elle-même en confiant la distribution à Polydor. Le 45 tours se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et devient le tube de l'été 81. Herbert Léonard signe ainsi son retour triomphal dans le monde de la chanson. On l'écoute.
Sans en attendre rien, mais pour le regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant simplement lui sourire. We'll be right back.
pour le plaisir, interprété par Herbert Léonard, est au top du top des ventes de singles en France pendant 6 semaines, du 29 mai au 9 juillet 1981. À la suite de ce succès, Herbert Léonard enregistrera la chanson en allemand, en espagnol et en italien. Il y aura ensuite Amoureux fou avec Julie Pietri, un des tubes de l'été 83, et Puissance et gloire, le générique de la série télévisée Château-Vallon, entre autres succès pour cet artiste.
Ouais, alors j'ai l'impression qu'on se souvient presque plus d'ailleurs de la chanson que de la série.
La série en elle-même, hein, oui. L'artiste avait fêté ses 80 ans le 25 février dernier, mais nous a quittés 5 jours après, le 2 mars. Voilà pour cette carrière d'Herbert Léonard.
Et il nous laisse pour le plaisir. Merci.
Exactement,
beaucoup.
Belle journée.
C'était le top du top sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Cyrielle Format, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, interprète de votre musique, connue désormais sur la scène romande, sur la scène suisse, sur la scène internationale. J'ai vu la France dans vos tournées récentes. On va parler de votre carrière, de votre démarche, de votre projet Maïmouna, et puis aussi d'un petit coup de gueule que j'ai vu sur les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. C'est ce qui m'a donné l'idée de venir vous voir maintenant. On est chez vous, à Sion, dans un studio. Il y a des guitares au mur, il y a des claviers un peu partout. Il y a un vieil harmonium magnifique.
Oui.
Vous jouez ?
Oui, un petit peu. Je sais, je suis pas une très grande claviériste, mais c'est plein d'instruments qui me sont très utiles quand je fais des arrangements pour moi ou pour d'autres artistes. Et donc, c'est toujours utile d'avoir plein de textures sonores différentes.
Bon, vous m'avez dit, chez moi, ça a du sens, parce que cette émission, c'est un rendez-vous. Mm-hmm. Voilà, c'est une pièce tout à fait normale, hein. C'est pas un studio capitonné, c'est là que ça se passe.
Ouais, c'est une pièce aussi avec beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres, ce qui n'est pas toujours le cas dans les studios d'ailleurs. C'est vraiment chez moi, c'est ce qu'on appelle un petit home studio, mais ça faisait du sens parce que c'est là que je travaille, que je compose, que j'accueille du monde, que j'enregistre, et puis c'est un endroit où je me sens très bien. Il y a plein d'images aussi au mur, il y a mon chat qui vient de temps en temps, mais peut-être pas aujourd'hui avec Cello qui fait le guet, mais non, j'adore cet endroit, je m'y sens bien.
Bon, la musique est acoustique chez vous. Il y a beaucoup de, j'ai écouté quelques interviews, beaucoup de sens que vous mettez dans le fait que l'instrument est organique, qu'il est réel, que c'est pas de l'électronique. Mais ce qui trône devant moi, c'est un gros ordinateur. On peut plus faire sans.
Ah, c'est difficile aujourd'hui de faire sans. Ouais. Mais moi, je suis très reconnaissante aussi de ça. Je me dis souvent que si j'étais née 20 ans plus tôt, ça aurait été très compliqué pour moi de faire de la musique. Mais c'est vrai qu'avec un ordinateur aujourd'hui et des programmes gratuits et hyper faciles d'accès, on peut tout faire à la maison. Et donc moi j'ai vraiment commencé comme ça, seule avec mon ordinateur, une petite carte son, et puis après j'ai appris vraiment à m'entourer, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très important pour moi de mettre l'organique au centre et l'humain aussi au centre, d'accueillir plein de monde sur le disque que j'ai sorti il y a 5 mois maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'instruments différents et beaucoup de musiciennes et musiciens qui sont venus, et l'ordinateur c'est juste un outil, mais c'est pas central dans ma démarche.
Alors justement, moi j'ai vu dans la présentation de votre carrière sur votre site internet, donc c'est de la source première, quelque chose de guidé par des décisions un peu radicales, hein. J'arrête mes études, je veux faire de la musique, j'arrête la musique classique parce que, comme souvent, ça a commencé par la musique classique, je veux mon propre univers, je quitte les groupes pour la solitude, et puis j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour à, comme vous venez de le dire, j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de plus faire toute seule.
Ouais, oui, je pense qu'on a besoin de se prouver des choses, hein. Et puis j'avais besoin d'essayer, de comprendre ces outils, d'essayer de les maîtriser au maximum. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai tout fait toute seule, de la composition, l'écriture, jusqu'au mixage. Et puis à un moment où, quand je réécoute ces titres où j'ai tout maîtrisé, j'ai un peu une forme d'écœurement. Ça dégouline
de moi.
Voilà, ouais. Et puis, je pense que j'ai eu besoin de ça et j'essaie d'avoir de l'amour pour la personne que j'étais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin d'être aussi poussée sur des chemins que j'aurais pas pris seule. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai de plus en plus envie de prendre d'autres chemins et puis d'être bousculé, quoi.
Bon, c'est pas mal d'avoir fait l'expérience de la solitude pour retourner au commun.
Absolument.
Et en percevoir les richesses.
C'est vrai, oui, c'est nécessaire, je pense.
Bon, vous êtes né dans une famille musicienne, on connaît sur cette antenne et en Suisse romande désormais votre sœur, hein, qui a aussi une carrière de chanteuse, plutôt humoriste aujourd'hui, oui. Également.
Oui.
La musique a joué un rôle très tôt, hein, ça, l'une comme l'autre, vous le rappelez dans vos interviews, la famille musicienne, c'est presque la chanson de traînée, je ne sais pas si vous la connaissez,
ah,
la
oui,
famille
oui.
musicienne.
Ouais, oui, c'est un peu ça. Ben, c'est vrai qu'on a une chance immense d'être né dans une famille d'artistes et en tout cas pour qui la musique, mais l'art sous toutes ses formes a toujours eu une place importante. Et puis moi, j'ai eu la chance, quand j'ai décidé de faire de la musique mon métier, on m'a jamais dit « mais non, tu vas pas pouvoir en vivre, c'est pas un vrai métier », ça j'ai jamais entendu de la part de mes parents. Et donc c'est une chance immense, on a toujours été même encouragés à nous exprimer sous différentes formes, à dessiner, à écrire et à chanter.
Vous relevez que c'est parfois l'ennui, la solitude, hein, qui a favorisé ça. Quand vous étiez toute petite, il a fallu utiliser l'art, la mélodie, la chanson dans sa tête pour s'occuper.
Oui, ben oui, ça c'est salvateur, hein, je crois, l'ennui. C'est un truc qui me fait peur aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens savent plus s'ennuyer avec ces téléphones qu'on a à portée de main. Mais c'est vrai, quand on a grandi à Orcières, qui était à l'époque encore un tout petit village, et puis
retiré du monde.
Ouais. Bon, pas tant que ça, mais c'est l'impression qu'on avait quand on était gamine. Et puis on était toujours dehors. Et puis on a aussi grandi dans un contexte assez religieux. Donc on était aussi souvent à la messe. Et puis je dois avouer qu'on s'ennuyait un peu. On comprenait pas tout ce qui se passait dans ces sermons. Donc on cherchait des échappatoires. Et puis ouais, on s'inventait des histoires, quoi.
La musique, c'est papa, maman. Pour toute la fratrie qui dit bon bah il faut faire de la musique, parce qu'il y a un moment où quelqu'un doit vous dire voilà, tu vas aller faire de la musique, quoi. Où c'est venu de vous, comment ça s'est passé?
Non, c'était imposé.
Ouais, c'est ça.
Je pense pour mes parents c'était quelque chose qui était très important.
Bon, faut dire qu'Orcières à l'époque c'était encore le 19e siècle.
Oh, non. Non, mais ben je sais pas si c'est vraiment quelque chose de dater, d'exiger de ses enfants qu'ils fassent un peu de musique. Moi, je trouve ça plutôt sain.
Non, je
ne
pense pas.
Non, je ne crois pas non plus.
C'est encore
ouais.
Cette habitude-là. Moi, pour moi, le moment magique, qui est un moment que je regrette personnellement, parce que vous êtes reconnaissante à vos parents d'une certaine rigueur. Moi, je leur en veux pas, mon Dieu, les pauvres. Mais voilà, moi, ils m'ont pas obligé. Donc, j'ai fait du piano et puis j'ai arrêté à 14 ans comme un jeune ado stupide. Et je le regrette aujourd'hui.
Bon, c'était pas des tyrans non plus. Mes parents, ils nous ont pas forcés. Ils nous ont suggéré de choisir un instrument et de commencer. Et on est quatre.
Il faut que j'enlève la question sur les punitions corporelles. Attendez.
Donc il y a ma sœur format dans la fratrie, mais j'ai aussi deux grands frères qui eux ont pas accroché à l'étude d'un instrument via le conservatoire, et mes parents les ont pas
renié.
Voilà, on dit bah, c'est ok, tu préfères jouer un Counter Strike, t'as le droit, quoi.
La musique classique, il y a toujours une question que je me pose aussi sur l'apprentissage de la musique. C'est pour me donner des excuses d'avoir abandonné. C'est cette espèce de froideur qu'il y a dans l'apprentissage de la musique quand on est enfant. On n'y va pas par la joie, on y va par les règles, il faut maîtriser des trucs avant d'avoir du plaisir.
Ouais, je pense que ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé le conservatoire en guitare classique, et puis c'était très rigide, c'est vrai, et c'est très académique, c'est pas très fun, quoi. On nous disait vraiment, il faut que tu apprennes d'abord à maîtriser ton instrument avant de pouvoir composer, de pouvoir
improviser, partir.
Ouais. Et ça, c'était une frustration. Et je vois aujourd'hui avec mais le conservatoire aussi, mais des écoles comme l'EJMA qui, en fait, mettent le fun avant tout et le plaisir, quoi. Mmh. Et puis, voilà, tu sais jouer deux accords, mais tu peux quand même faire des concerts et puis tu peux rejoindre des groupes. Et ça, je regrette un petit peu. Parce que c'est vrai que c'était pas toujours facile, et j'en ai eu marre des fois, et moi aussi j'avais envie d'aller jouer avec les copains plutôt que de faire mes gammes, mais je suis quand même reconnaissante d'être reconnaissante d'être passée par là. Et puis maintenant, la guitare, c'est vraiment l'instrument central dans ma démarche. Et c'est avec ça que je compose. Et je suis contente de pouvoir bien le maîtriser.
Ouais. Il y en a pas mal derrière moi. Hein.
Oui, ouais. Elles ne sont pas toutes là, mais ouais.
Ah oui, elles ne sont pas toutes là. Ok. Ouais. Elles sont derrière moi, je ne vais pas me tourner, mais il y en a 5-6 en tout cas.
Ouais, ouais. Il y en a 6 ici et j'en ai encore 2-3 qui traînent.
Il y a un fétichisme, il y a celle des concerts, il y a celle de quand je travaille chez moi, il y a celle de quand je suis à l'extérieur.
Ouais, il y a un peu ça, puis elles ont toutes leurs sons différents, leur âme. Et puis j'ai aussi toutes mes anciennes guitares en fait, je suis très attachée, j'aime bien les garder.
On ne jette pas.
Ouais.
Vous voulez écrire, enfin vous écrivez, hein, vous composez vos chansons, vous écrivez des textes par ailleurs, mais... J'ai lu que, enfin, ou entendu dans vos interviews que c'était pas votre idée première, la musique. Vous rêviez pas d'être chanteuse, quoi.
Non, pas du tout. C'est vrai, moi, j'écrivais plein d'histoires depuis toute petite et je dessinais beaucoup. Je faisais plein de BD et des petits romans illustrés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Et puis, alors que je faisais déjà de la guitare, mais il m'a fallu vraiment un bon moment pour comprendre qu'on pouvait tout mettre ça ensemble.
Un déclic.
Voilà, et qu'on pouvait raconter des histoires par la musique aussi. Ouais.
Bon, il y a cet album donc, qui est sorti il y a quelques mois, vous l'avez dit, hein, ça s'appelle « C'est demain que je meurs ».
Oui.
L'affiche est plus joyeuse que le titre. comment vous qualifiez votre musique?
Alors, c'est...
Enfin, quand je dis musique, pas seulement la musique, vos chansons, quoi.
Bon, c'est toujours une question difficile, mais je pense que s'il faut mettre ça dans un tiroir, c'est vraiment de la folk pop. Donc, comme on le disait avant, il y a beaucoup d'instrumentation et un aspect un peu orchestral parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup d'instruments différents avec la guitare qui est toujours au centre, plein de guitares et plein de voix aussi parce que j'adore les harmonies et que la voix est très importante. Et puis, la mélodie aussi très importante, le texte en français toujours. Et puis cet album, c'est Demain que je meurs, c'est 10 chansons qui parlent de la fin des mondes. Donc il y a une chanson qui parle de la fin de notre monde physique, c'est aussi la fin de l'enfance, la fin de l'amour. C'est une chanson un peu sur la finitude des choses, mais surtout sur la renaissance.
Qui
c'est pour
après,
ça
ouais.
Voilà, que l'affiche est très colorée.
Il y a une floraison.
Voilà, c'est ça. Après le volcan et les incendies, il y a la terre qui est très fertile et ça laisse place à plein de choses.
Bon, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Ça aurait pu s'appeler « C'est demain que je renais », par exemple.
Ah, c'est vrai. Je pense que je suis dans une période plutôt pessimiste. Je trouve que c'est très dur aujourd'hui d'avoir de l'espoir et d'être heureux, en fait. Je suis très angoissée. Je me fais beaucoup de soucis pour l'humanité et pour la planète. Et parce que je pense qu'aussi, que plus on est lucide et plus on est... flippé par tout ce qui se passe, et ça c'est un peu dur de mettre du sens dans notre pratique quand on a l'impression que tout s'écroule autour de nous.
Il y a cette fameuse phrase d'Antonio Gramsci, hein, le philosophe communiste italien, qui disait il faut trouver devant la dureté et le pessimisme du constat, il faut trouver de l'optimisme dans l'action.
Ouais.
Alors ça c'est le credo des militants par exemple, ouais. Quelle que soit leur cause. Composer, créer pour vous, c'est une sorte de viatique, de médicaments?
Ouais, alors personnellement c'est sûr, et puis je pense aussi que j'aime bien la question de l'engagement et du militantisme, parce que je crois que de plus en plus c'est ça que je perçois aussi dans la musique et dans la douceur et dans le fait de promouvoir et de mettre en avant des projets qui font du sens, qui mettent l'humain au centre, qui mettent le partage. Et puis, ouais, pour moi, c'est une forme de militantisme, en tout cas. De dire que, voilà, on essaie de créer des zones de calme, de doux, on peut dire les choses.
C'est un choix un peu radical dans le métier que vous avez choisi. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai. La musique
c'est
que je fais.
C'est a priori difficile d'entrer dans les radios, difficile d'entrer dans les plateformes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, d'y être, c'est facile, mais d'y être algorithmiquement favorisé, j'imagine, c'est difficile.
Oui, c'est sûr, c'est une musique de niche. Hein. Ouais. On est loin des hits de énergie, mais c'est une musique qui fait du sens, et puis je pense qu'il y a un vrai public dont je fais partie aussi qui a besoin de ça. Mmh. Et donc voilà, j'arrive à vivre de ma musique et à faire des concerts avec des salles pleines de gens qui ont du plaisir à écouter cette musique.
Bon, bah ça c'est l'aspect ensoleillé de cet entretien. On va commencer là-dessus, hein, la deuxième partie de cette émission. Cyrielle, on se retrouve dans un instant.
Radio Chablais, programme de nuit.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Fred Beltrando, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle de votre livre, Le Ruban de Sisyphe, livre aux références multiples, j'imagine, hein, parce que ce monde de la science-fiction n'est pas le mien. J'ai pas été un grand lecteur de science-fiction. Alors j'ai détecté Orwell. J'ai détecté aussi des films. Hein, quand on voit le monde du travail dans ce monde, dans ce premier monde que vous décrivez, qui est tout proche de nous, on peut imaginer Brésil, évidemment, de Terry Gilliams. Ouais. Certaines scènes de violence, on peut voir Orange Mécanique, Le Prix du Danger, Hunger Games.
Aussi, ouais, exactement.
Blade Runner avec des robots esclaves qui se rendent compte de leur esclavage et les Anonymous, etc. J'imagine qu'il y a faut plein d'Asimov.
La partie d'avant de l'interview, on a un peu philosophé sur le bouquin. Il faut dire aussi que c'est fun, sinon il n'y a personne qui va vouloir le lire.
Non, mais ça, alors, je m'excuse, on met en référence Brésil, ça va.
C'est moi qui fais trop l'intello, en fait. Il faut que j'arrête.
Quand on met en référence Brésil, ça va.
C'est cool. Oui.
Non, on sourit, mais on peut rire un peu jaune. Parce que souvent, on peut se dire qu'on y est déjà un petit peu, quoi, hein, dans les rapports humains, dans la façon, etc. Et puis après, alors, vous partez dans quelque chose de beaucoup plus philosophique, même si vous avez réfuté un peu le mot tout à l'heure, enfin, en tout cas, le terme de philosophe, laissons ça de côté, mais enfin, il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on a conscience de soi-même, de sa place dans le monde, de ce qui est acceptable ou inacceptable, et dans un schéma qui est horriblement figé. Hein. Ouais. C'est, finalement, je me suis dit en vous lisant, dans tous les systèmes, on arrive à un moment où on y est avec le capitalisme aujourd'hui, le there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc sortir du schéma, c'est quelque chose d'extrêmement fort.
Ce qui amène à un moment de bascule. Et ce qui est aussi lié à la liberté. C'est marrant parce que j'ai juste entendu ce matin une très belle phrase d'un type dans... C'est Montfort, toubib français académicien, qui disait « La liberté, c'est comme la santé. Quand on commence à s'y préoccuper, c'est qu'on l'a perdue. » Et je lui ai dit « Tiens... C'est parfait, il faut que je la garde pour l'interview avec Barbet. »
Oui, ben voilà. Mais là, on est même au-delà, quoi. Hein, parce que quand on a l'impression que quand vos personnages se rendent compte du système dans lequel ils sont, c'est pas le moment où ça commence à picoter. On est déjà bien installé dans le système répressif, totalitaire, etc.
Oui, mais après, c'est le système qu'on vit aussi aujourd'hui, alors où il y a les prémices de ça, mais peut-être que ça va s'arrêter avant que ça devienne trop tard. On ne sait pas, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Il y a aussi des choses très marrantes dans la façon dont on voit les choses. Si on prend un petit peu une position méta, si on peut un peu du recul, parce qu'il y a des dérives partout. Je trouve que le souci en ce moment, c'est le côté très manichéen. On est blanc ou noir. On est pro-Gaza ou on est pro-israélien. On est pro-ceci ou on est pro-cela. Et il n'y a pas de juste milieu. Les gens ont des fois... Les gens, pas tous, parce que souvent, quand on discute de nouveau avec un individu tout seul, il y a un juste milieu.
Il y a une majorité de gens
qui réfléchissent, mais la masse, en fait, part dans ce juste milieu.
C'est les deux pôles qui parlent le plus fort.
Voilà.
Mais en même temps, quand il y a trop de juste milieu, il n'y a pas d'évolution, quoi.
On devient plan-plan, et puis il se passe pas grand-chose. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ces vagues déferlantes qui viennent de droite et de gauche. Qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Est-ce qu'elles font un petit peu sortir les gens de leur zone de confort?
Il y a un personnage, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment Léa Dick Abbott. Qui est historienne, et on voit à quel point l'histoire est déterminante dans toutes les dictatures. Ouais. Hein, il faut contrôler l'histoire.
Ouais. Mmh.
Et elle arrive comme une historienne qui va dire, mais non, là, il y a un truc qui cloche, ça marche pas. Et elle découvre ces textes du Messie, du néo-Messie, John Doe. Et ça donne le deuxième épisode de révolution et de révolte, de votre livre. Là, on y est aussi. Bon sang, les scientifiques, les historiens, les gens sont remis en question aujourd'hui.
Oui, oui, alors c'est effectivement... Ah ben oui, c'est vrai. Je n'ai même pas pensé à ça. Excellent. Merci, Florian. Oui, il y a de ça aussi. Mais Léa Dick Abbott, elle a un truc que je trouve intéressant, si je puis dire que un de mes personnages, je les trouve intéressant, c'est que, et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnages du bouquin, elle n'est pas complètement actrice de son destin. Parce qu'elle découvre ses écrits, mais en fait, ils sont diffusés sans qu'elle soit au courant par quelqu'un d'autre. Donc, elle est victime, en fait, de ce qui se passe, qui l'empêche pas de penser, d'avoir son
tout
truc.
Comme son prédécesseur, John Doe, d'ailleurs, qui, vraiment à son corps défendant, devient le néo-messie et devient une figure dont il faut admirer le destin. Il y a aussi une réflexion, là, sur le fait qu'on est les jouets de son propre destin, et puis qu'il n'y a pas tellement de libre arbitre et de volonté propre.
Alors, oui, parce que vous avez lu le début de la troisième partie, effectivement, c'est la grande question de Liadi Cabot. Est-ce qu'elle a vraiment pu choisir son destin ou pas? Est-ce qu'elle a pu faire son truc? Mais tous les personnages, en tout cas une grande partie, les personnages principaux du bouquin, vont être un moment dans ce choix. Est-ce que je décide, moi? Ou est-ce que je continue à être l'acteur passif, en fait, de ce qui est en train de se passer autour de moi?
Il y a un chat,
le mien?
Non, il n'est pas là,
ah.
Nemo.
Ah oui, bah, c'est le mien en fait, exactement. Il y a le chat, qui est à mon avis le personnage que je préfère.
C'est
de
le personnage essentiel, ouais, du livre, en effet, ouais. Le transmetteur.
Ben oui, le chat, il va être transmetteur, il est le chat, on va dire, c'est une époque où effectivement tout le monde a un chat robot, et là ce chat va développer, et c'est là justement ce que je trouvais intéressant dans ce personnage, c'est qu'il va développer des capacités empathiques et de sympathie, mais qui sont presque au-delà de ce que certains humains peuvent faire. Donc l'idée, c'est de dire, ok, ben est-ce que...
Oui, j'ai relevé une phrase à ce propos, hein, page 180, si un organisme artificiel avait la possibilité de développer une réelle empathie, on pouvait espérer qu'un humain en soit capable un jour.
Oui. Et oui, mais en fait, je pense, bon, ça c'est
pas
un
très
truc...
optimiste sur l'espèce. Hein.
Non, mais l'humain a plein de capacités, etc. On n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau. Je pense qu'on a un potentiel extraordinaire. On utilise ce potentiel plutôt pour nous désinguer tout seul, mais c'est pas grave. La planète, elle va vivre sans nous. Hein. On n'est rien. L'humain est une partie infime en fait de cet écosystème planétaire universel, etc. Mais maintenant, quand on regarde dans les organes vivants, ça c'est un petit peu une théorie de vieux con à chacha que je suis, parce que bah, vous me connaissez, moi, les alors, animaux, j'adore
voilà,
ça, etc.
Moi, je suis votre collègue à chien, donc sentez-vous libre.
Voilà, on est chacun nos vieux cons animaux domestiques. Mais j'ai pas beaucoup de guerre ou de machin comme ça. Vraiment, on commence à être vieux un petit peu, mais il y a un truc qui me révolte toujours. C'est les connards qui traitent mal des animaux, parce que un animal, je connais pas d'animal qui font souffrir pour le plaisir. Les gens disent, ah mais les chats ils font souffrir les oiseaux, c'est juste pour faire chauffer la viande pour pouvoir le bouffer après. Et capable de cet amour empathique que même nous, cet amour inconditionnel, alors qu'on peut avoir dans le cas d'une relation père-fille ou d'autres choses comme ça, mais dans le couple, c'est jamais vraiment un amour inconditionnel. Dans l'amitié, des fois, c'est un amour inconditionnel, mais c'est difficile à avoir.
Bon, le chat, il traverse tout le livre, il est le complice de tous vos personnages, hein, parce qu'ils se le transmettent, robot, hein, vous l'avez dit, donc il vit très très longtemps, et il a un rôle déterminant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, parce que justement, on peut, moi qui ne suis pas un grand client de science-fiction, bah, j'ai trouvé de quoi nourrir mes angoisses dystopiques actuelles avec, avec vos réflexions, qu'elles soient proches ou lointaines, je m'y retrouve, toutes mes réflexions se retrouvent dans les vôtres et c'est plutôt très bien amené. Cette maison d'édition, là, on va partir un peu là-dessus, Rivière Blanche, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Fleuve Noir. Hein.
Oui, exactement.
C'est une maison qui est née, je crois, de la fin de l'anticipation et de la SF chez Fleuve Noir.
Exactement,
c'est
Jean-Marc L'Officier et d'autres. J'ai contact avec Jean-Marc principalement, qui a relancé ça, qui est une maison d'édition assez réputée en France, orientée sur la science-fiction. Et effectivement, il y a une suite logique. D'ailleurs, dans les couvertures, alors pas dans le mien, parce que le mien est sorti en hors-série, parce que normalement, au départ, on devait en faire un diptyque, puis finalement, ça m'arrangeait pas trop. Ils ont été très gentils de le sortir en un seul volume. Pour que j'aie tout, mais la collection habituelle, elle ressemble beaucoup aux illustrations Fleuve Noir, Média X, temps en arrière, où j'étais plus ou moins pané. Et puis, comme le poisson. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher.
J'avais la tranche. Moi, c'est la tranche qui m'est venue, la tranche panée.
C'est mon côté barbouze qui revient comme ça.
C'est très bien, c'est très bien.
Et puis voilà, oui, maison d'édition intéressante, une super bonne équipe. J'étais très bien accompagné parce que ben, quand on envoie un bouquin comme ça, déjà, on a la chance que les gens le trouvent assez intéressant. J'ai pas eu l'obligation de faire de grosses modifications. Après, il y a quand même des histoires d'orthographe, de choses comme ça. On a quand même des gens qui sont dans le métier, qui ont bien corrigé ça, dont Jean-Michel Archambault, qui lui-même a été directeur de collection pour Perry Rodan ou des choses comme ça. Je sais que là, les seules personnes qui lisent de la SF vont savoir
voilà,
ce que c'est
ça,
les autres.
Oui.
Partez du principe
c'est
que c'est un mec cool,
c'est une maison vraiment spécialisée et qui a vraiment un cercle. Hein, c'est ce qu'on appelle la niche, quoi.
Oui. Ah oui, alors ça, c'est clair que si je voulais faire un un succès d'édition qui est accessible à tout le monde. J'aurais fait un bouquin de développement personnel, mais je sais pas faire ça. Et puis la science-fiction, c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis que je suis tout petit, donc c'était un petit peu la voie logique.
Je vous ai cité un certain nombre de références, vous les adoptez toutes ?
J'adopte tout, ouais. Tout ce qu'on propose, j'adopte. Non, mais oui.
En SF,
j'avais pas pensé à Blade Runner. En SF, Asimov, bien évidemment, pour les robots.
Alors lui, je l'ai vu cité quelques fois, mais je le perçois pas parce que je l'ai pas lu. Hein, ouais.
Et puis, mais par contre, il y a des choses, par exemple, Herbert, je me retrouve pas là-dedans parce que pour moi, c'est une science-fiction, alors que j'aime beaucoup, que je lis, mais je voulais écrire un livre qui soit, comme vous le dites avant, aussi accessible aux gens qui sont pas amateurs de science-fiction.
Parce que
la science-fiction, ça peut être un peu absurde.
Je voulais voir si c'était un choix de votre part. Il n'y a pas tellement de descriptions.
Non.
On ne décrit pas le monde d'après. Il faut aller le percevoir par petites touches. Hein,
oui.
Un petit objet, un petit véhicule.
Ah, je suis pas Balzac, ça c'est clair.
Ni Victor Hugo. On passe pas 300 pages sur la description de la cathédrale. Ouais. Mais il y a en effet une... on n'a pas besoin non plus. Alors, vous avez mis des noms un peu compliqués. Là, je ne sais pas s'il y a des références d'ailleurs à ces noms.
Oui, il y a quelques références à Star Trek, il y a des références qui ne font rire que moi, en fait. Il y a un personnage qui s'appelle Anton Valak, parce que dans ma tête, c'est le comédien Elie Valak, vieux. Il y a des trucs que je suis le seul à comprendre, mais ça me fait marrer, moi, ça va très bien. Vous avez commencé un truc avant, j'ai perdu le fil.
Si c'est truffé de références, comme on l'imagine, et si ces noms sont...
Oui, il y a des noms qui sont imaginés, il y a des noms qui viennent comme ça, on ne sait pas tellement pourquoi. Mais...
Parce qu'il y a Jérémy, hein.
Ouais, Jérémy Twilk, je ne sais même pas d'où c'est sorti ça, aucune idée.
Ah, parce qu'il y a une race dans Star Wars qui s'appelle les Twilk.
Non, pas du tout. John Doe, c'est pas... Alors ça, c'est volontaire, il s'appelle Jonathan Doe, parce qu'il est Monsieur Nobody, grosso modo, ça c'est un petit peu le but. Bah, parce que c'est Monsieur Tout le Monde, grosso modo. John Doe, dans la culture anglaise, quand on découvre un cadavre, par exemple, qu'on ne connaît pas,
donc on n'a pas pu identifier, on l'étiquette John Doe, quoi.
Ou Jane Doe, si c'est une fille.
Monsieur Nobody.
Si tant est qu'on arrive à reconnaître le sexe encore.
Monsieur qu'on ne sait pas qui c'est.
Exactement. Mmh. Et là, il y a un but logique. Et puis Léa Dicabot, ça vient de Ichabod Crane, qui est le personnage principal du Chevalier sans tête. Voilà. Mais il n'y a que moi qui comprends ça, c'est pas d'une importance folle. Hein. Mais voilà, oui, dans les références, il faut que je me retourne pour voir, parce que je ne me rappelle même plus des bouquins que j'ai lus, etc.
On ne va pas y passer trop de temps, on arrive à la fin de cet entretien de toute façon. Mm-hmm. Mais il y a un plaisir de lire qui, souvent, chez beaucoup de gens, précède le plaisir d'écrire, c'est votre cas. Il y a un plaisir de lire chez moi qui ai lu votre livre, en effet, et je le confirme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un livre... Alors, il plaira probablement aux gens qui aiment la science-fiction, mais pas que, parce que on n'a pas besoin de faire l'effort d'entrer dans un monde qui nous est étranger, quoi.
Et puis, effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez avant, je laisse aussi les gens doivent faire leur cheminement pour décrire les endroits. Comme on l'a dit, je suis ni Balzac ni Hugo, j'ai de loin pas le talent des deux. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le cheminement de pensée des personnages. Donc, et attention, je vais le dire en toute modestie, je serais plus proche de Philippe Roth, bien que j'écris pas du tout comme lui et qu'elle a un talent qui est largement au-dessus du mien, mais ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des caractères. Et qu'ils soient dans une pièce carrée ou ovale, on s'en fout, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui vont leur arriver à ces gens et puis comment ils vont se dépatouiller.
Ils se dépatouillent en tout cas, et puis ils nous offrent une vision du destin de l'humanité. Hein. C'est assez ambitieux votre bazar et ça marche.
Alors,
merci.
Je suis content, c'est rare qu'on me dise que mon bazar est ambitieux. Merci beaucoup. je vais le garder.
Dieu reconnaîtra les siens. Rivière Blanche, c'est la maison des édition, le ruban de Sisyphe, c'est le titre de votre livre, Fred Beltrando. Merci.
Est disponible dans toutes les librairies du Chablais.
Bien sûr.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Supplément Ananas sur Radio Chablais.
Caramba!
Bastien, salut!
Salut cette équipe, salut Loïc. Aujourd'hui, on va parler de Noé. Alors, Supplément Ananas, c'est souvent des trucs surprenants, des trucs drôles, mais pas forcément, et aujourd'hui ça l'est même pas du tout, c'est une histoire assez tragique.
Arrête.
Mais qui finit plus ou moins bien. Pour ça, musique un peu triste. On parle donc de Noé. Noé qui naît dans une famille très nombreuse. Une maison pleine de rire, d'espoir, d'avenir. Mais un jour, l'horreur. Un psychopathe débarque et en une nuit, il tue tout le monde. Sa mère, ses frères, ses sœurs, toute sa vie, elle est rasée en une nuit. Il ne reste que deux survivants, son père et lui. Et lui, en plus, il a un bras en moins à cause de cette histoire. C'est même pas un détail, c'est un rappel constant que ce cauchemar a existé. Et son père, derrière, brisé, un homme en miettes, il vit dans la peur. Noé a pas le droit de courir, il a pas le droit de jouer, il a pas le droit de vivre. Il est juste une relique qu'on protège, pas un enfant qu'on élève. Mais Noé, lui, il veut respirer, il veut exister. Alors un jour, il dit stop, il désobéit et il fugue. Et là, c'est encore pire parce qu'il se fait kidnapper. Pas par un inconnu au coin de la rue, non. Par un dentiste, un type complètement... qui pourrait paraître normal, mais qui est en fait totalement tordu à l'intérieur. Il l'enferme dans une cage en plastique, comme un jouet, avec d'autres enfants. Et le pire, c'est qu'il veut l'offrir à sa nièce, une espèce de gosse dérangée, violente. Alors pendant ce temps, son père, lui, il change. Il dépasse sa peur. Il se réveille, il devient un vrai héros. Il parcourt le monde, les dangers, accompagné d'une femme un peu tarée, qui perd la boule, mais qui l'aide beaucoup. Et Noé, il abandonne pas, il y croit, il ruse, il résiste, il espère, il croit au fond de lui que son père va venir. Et il vient. Contre tout espoir, il vient. Il se retrouve, il pleure, et il rentre. Cette histoire, elle fête ses 22 ans. Et bah, c'est celle du monde de Nemo.
Oui, j'étais sûr que c'était ça. J'ai pas eu le film.
Oui. Non mais, c'est quand tu te dis au final, les oui. Disney, les Pixar,
non.
C'est des histoires tragiques.
Alors oui, non, mais les Disney surtout, hein, ils sont fumés du cigare, les mecs.
Il suffit de remplacer les noms et puis tu t'enlèves que c'est des poissons, tu mets à la place juste des personnes et en fait. Pire, triste.
Oui.
En fait, le daron Nemo, il s'est fait ramasser toute sa mif, dont la mère de Nemo, par un barracuda qui a défoncé tout le monde.
Ouais.
Nemo, il se fait ramasser par un dentiste qui décide de pêcher, là, comme ça, de mettre dans un aquarium.
Non.
En plus, c'est totalement illégal, je pense, d'aller chercher un poisson dans l'eau pour le mettre dans un aquarium.
C'est un poisson clown, j'imagine que c'est pas. Voilà.
Et tout va bien.
Tout va bien.
Va bien.
Mais oui.
Donc voilà, c'était l'histoire de Nemo qui fête cette année ses 22 ans.
Ça m'a surpris, j'ai bien aimé.
Bisous.
Supplément Ananas sur Radio Chablais.
Radio Chablais, programme de nuit.
Ah, c'est dans les jeux de mots.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Ça, c'est les patates, ça.
Ouais, on a mis les patates là. Là, on a mis les haricots, tu vois. Alors, il y en a un ou deux qui ont un peu de la peine. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis encore? Des oignons et des échalotes et tout ça.
Montre voir un jardin communautaire. On est toujours à Viana toute cette semaine. Et puis, Émilie, là, en termes de travail, parce que tu me parles de patates, tu me parles de haricots, mais en termes de travail, ça représente quoi?
Bon, un jardin, ça demande beaucoup de temps. Toujours, hein, de toute façon, communautaire, pas communautaire. Le but du jardin communautaire, c'est que... Il y a des personnes qui ont des horaires. Bah, par exemple, on a notre caissière qui est dans l'équitation, en professionnel. Bah, elle, clairement, elle a des horaires... elle ne sera jamais disponible vraiment en même temps que nous. Elle travaille beaucoup. Bah, dès qu'elle a des mandats, comme elle est indépendante, elle les prend. Et c'est vrai que l'avantage du jardin communautaire, c'est qu'elle peut jardiner. Elle peut repartir quand même avec des légumes.
Si elle devait s'occuper de son jardin, elle ne pourrait pas. Ça défraîchirait assez rapidement dû à son rythme de travail.
Bah, elle ne le ferait pas parce qu'elle n'aurait pas du tout le temps de le faire.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire un truc?
Tu aimes le jardin, Mathilde?
Il ne faut pas faire oui de la tête, il faut dire oui.
Dis oui parce que sinon on n'entend pas dans le micro.
Merci.
Avec plaisir. Et toi, comment tu t'appelles?
Jean.
Jean, tu aimes bien le jardin communautaire, Jean? Ouais, non, Jean, il joue avec moi à cache-cache. Mais c'est ça le côté communautaire aussi. Les petits participent depuis tout petit. Et puis tout le monde peut participer, et justement, indépendamment de ses horaires, parce qu'en fait, vous travaillez un peu par tournus.
Alors, par tournus, oui et non. Après, c'est vrai qu'on a les bricoleurs et les jardiniers.
Donc, il y a des secteurs d'activité.
Bah, c'est surtout qu'il y en a qui ont dit clairement « Ouais, moi j'aime bien, mais je suis plus bricoleur que vraiment, moi, des herbes plantées, c'est pas trop mon truc. Par contre, te planter 4 clous, il n'y a pas de problème. » Donc on prend tout le monde, parce qu'il y a toujours de quoi faire.
Il y a toujours de quoi faire. Ça représente combien d'heures de travail, tu penses, à cumuler un ordre de grandeur?
Mais quand on fait du jardin, on calcule pas le nombre d'heures. Non mais sérieusement, tu vas demander à n'importe quel jardinier, je suis sûre qu'il n'y a personne qui va te dire un nombre d'heures. C'est pas possible.
Oh bah apparemment j'ai posé une question qui ne se pose pas.
Certaines personnes des fois ils parlent vite, hein? Puis des fois on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Et cette première partie du MAG nous est présentée par Emilia, bonjour.
La VIP, c'est l'association valaisanne des institutions pour les personnes en difficulté. Ils ont signé en début juin une charte de collaboration. Ainsi, la volonté de renforcer la synergie entre les acteurs dans les domaines du handicap, une démarche qui fait partie du cadre du 10e anniversaire de la VIP. Pour célébrer une décennie de collaboration et de progrès, comme le souligne du président de l'AVIP, Benjamin Roduit.
Alors il s'agit avant tout, comme son nom l'indique, de s'occuper des personnes en difficulté, en situation d'handicap. Nous avons trois secteurs, le secteur handicap adulte, le secteur handicap jeunesse, et puis tout ce qui relève de l'éducation spécialisée.
Alors en 10 ans, on constate, on remarque, on évolue, on modifie. Alors quelles sont selon vous les évolutions ou les modifications majeures que vous avez pu constater durant ces 10 ans ?
Alors tout d'abord à l'échelle de notre association, nous regroupons 26 institutions, ça fait 10 000 bénéficiaires, 4 000 lieux de placement, que ce soit l'hébergement de jour ou complet, ça fait 3 500 collaborateurs, donc ça veut une grande machine, puis qui répond à un réel besoin. Alors, il y a 10 ans, les besoins étaient déjà présents, mais ils étaient peut-être moins bien repérés. Et surtout, alors, il y a une forte évolution, malheureusement, de tous les problèmes liés au psychisme. L'handicap physique, on commence à être habitué aussi, même si on peut toujours faire mieux pour lever les différentes barrières sociales ou architecturales. Par contre, du côté de l'handicap psychique, là, c'est un véritable défi. Alors, je crois que le grand changement, c'est cela, en 10 ans.
Alors vous l'avez souligné, l'association fédère plus d'une vingtaine d'institutions. Il y a aussi, je suppose, un travail qui se fait étroitement avec le canton. Alors comment se passe ce fonctionnement ?
Alors tout d'abord, on a appris à exister. Il faut savoir que nous sommes une association qui regroupe des institutions qui sont para-étatiques, puisqu'elles sont subventionnées par l'État. Et jusqu'ici, eh bien, l'État s'appuyait pratiquement sur les institutions les plus importantes pour définir soit sa planification, les mandats de prestation, enfin la politique sociale. Et depuis lors, eh bien, on s'est organisé aussi, on est devenu un partenaire incontournable de la part de l'État, non pas sous la forme d'une opposition, mais plutôt d'une collaboration active. Nous sommes sur le terrain, on voit quels sont les besoins à moyen et long terme. Et pour cette 10e année d'anniversaire, eh bien, on a réussi à signer une convention avec l'État.
Alors, il y a un mot sûrement qui ressort dans tout le travail que vous effectuez sur le terrain, c'est la notion de solidarité. Est-ce que cette notion aujourd'hui, elle a le même impact, elle a la même saveur ?
Oui, l'un des grands débats au niveau de nos institutions, c'est est-ce que il est préférable finalement de maintenir les personnes à domicile avec des associations bénévoles, avec de l'assistance à domicile, ou alors est-ce que elles sont mieux en institution. Et finalement, le point commun, c'est la solidarité, c'est-à-dire on doit chaque fois réfléchir pour la personne concernée, qu'est-ce qui est approprié comme accompagnement pour la personne, bien sûr, mais aussi pour son entourage, pour les proches aidants qui parfois sont essoufflés à domicile et qui peuvent s'appuyer sur nos institutions. Donc, à mon avis, c'est là que se joue la solidarité. Personne ne doit être comme ça largué dans la nature.
C'est un des défis majeurs pour le futur ou il y en a d'autres ?
Alors ça, c'est le principal défi. Un autre défi, c'est l'innovation. Il faut toujours être attentif aux évolutions des difficultés auxquelles les personnes en handicap sont soumises dans leur quotidien. Je mets surtout l'accent sur les problèmes psychiques, plus particulièrement chez les jeunes. On s'aperçoit que malheureusement, depuis le Covid, eh bien, il y a une période un peu de déprime, elles peuvent venir soit de l'éco-anxiété, elles peuvent venir soit de l'obligation de résultats, hein, par exemple pour les jeunes qui sont en formation, et tout cela débouche parfois, et bien sûr, des passages en institution. Et là, on doit avoir l'approche la plus appropriée. D'un autre côté, dans un âge de la vie bien plus avancé, on s'aperçoit qu'on a les mêmes difficultés. Donc voilà, ça, ce sont les grands défis. En fait, on voit qu'on est à deux extrêmes de la vie, hein, tant chez les jeunes et qui sont appelés à devenir adultes, que chez les adultes qui vont devenir des personnes vulnérables à soutenir.
Benjamin Redu, merci pour ces précisions. On rappelle, vous êtes donc le président de l'AVIP, l'association valaisanne des institutions en faveur des personnes en difficulté. Et encore une fois, on vous souhaite un bon anniversaire avec cette association qui célèbre cette année ses 10 ans.
Merci beaucoup, oui. On a de belles manifestations encore en vue, notamment au mois d'août et en novembre, avec des forums de discussion sur les thématiques, hein, proches du monde de l'handicap. Et puis, dans le Chablais, eh bien, nous sommes très actifs aussi avec nos associations. Si je peux en citer quelques une, hein, bien sûr la Castalie, les Marmettes, nous avons la Chaloupe, la Fontanelle, et on voit qu'on est bien implanté sur l'ensemble du Valais.
Un travail extraordinaire qui s'effectue sur le terrain. Merci beaucoup et bon anniversaire encore avec l'association.
Radio Chablais, programme de nuit.
Et le deuxième mag nous est présenté par Evan. Bonjour et bienvenue.
Salut. Un moment de sport pour tous ce samedi 14 juin au bord du lac, créé par la Fondation des Églantines, qui a pour mission d'accueillir et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Cet événement vise à rassembler la population du sport pour tous. Ce relais de l'inclusion veut un moment de partage et de communion dans un esprit festif, mais c'est aussi de rappeler les missions et l'histoire de la Fondation des Églantines. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le directeur de la Fondation, Joseph Bierry. Il est accompagné pour l'occasion par Lorraine Mercier et Carole Juillard, physiothérapeute et organisatrice du Relais de l'Inclusion.
On fête les 75 ans cette année avec plusieurs événements dans le Relais de l'Inclusion, mais aussi le point d'orgue les 12 et 13 septembre et des fêtes ici. La Fondation est une fondation privée d'utilité publique. Elle est financée par le canton de Vaud. Et puis, on accompagne une centaine de personnes à mobilité réduite pour la plupart, soit dans des lieux de vie ou des activités de jour, et puis environ 150 collaborateurs qui les accompagnent.
Des accompagnements et des idées et des projets qui arrivent comme ça avec ce relais de l'inclusion le samedi 14 juin. Carole Juillard et Laurine Mercier, vous êtes à l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette initiative, Laurine Mercier?
Tout d'abord, durant l'année, les bénéficiaires de la Fondation ont cette possibilité de faire du sport adapté. Et on s'était fait la réflexion et l'envie de se dire ben, pourquoi pas créer une après-midi où la population se rassemble et partage un moment ensemble à travers le sport, quelles que soient nos habiletés à chacun et à chacune. Donc c'était vraiment pour cette vision-là qu'on voulait créer cet après-midi.
Alors effectivement, le sport, il est extrêmement important, hein, peut-être encore plus quand on se sent, on peut avoir ce sentiment d'exclusion. Et c'est le but aussi de cette journée, c'est de rassembler tout le monde autour du sport le plus simplement possible, Carole Juillard.
Oui, exactement. Et c'est pour ça aussi que toutes les activités qui vont être proposées sont permises à toutes les personnes qui viennent, qu'elles soient effectivement à mobilité réduite ou au contraire des personnes valides avec leurs enfants, famille, amis, vous pouvez venir sans problème pour effectivement participer à ce relais.
Alors, qui dit relais dit passage de témoin, quelque part, il faut être solidaire dans cet exercice. Laurine Mercier, comment ça va se dérouler cette journée?
Donc, il y aura plusieurs